Merci d'écouter RFI. 9h, rapport au prince, il est 13h en temps universel. Dernière partie d'RFI Midi, nous sommes sur le continent américain durant la prochaine demi-heure. 3 jours de deuil national au Pérou et l'annonce de funérailles nationales, elles aussi pour Alberto Fujimori. L'ancien président est décédé, lui qui venait de sortir de prison. Il avait été condamné pour des crimes contre l'humanité commis pendant ses années de pouvoir. Comme tous les jeudis, nous serons en ligne dans quelques minutes avec notre confrère Franz Duval, rédacteur en chef du journal haïtien Le Nouvelliste. Et puis l'actualité des Outre-mer, Benoît Ferrand, les relations qui se tendent entre l'État français et le syndicat de gestion de l'eau en Guadeloupe.
L'État a annoncé en début de semaine suspendre le versement de ses subventions de fonctionnement. Une mise en garde, dit le préfet. Nous entendrons tout à l'heure Xavier Lefort, préfet de la Guadeloupe.
À tout à l'heure. Et tout de suite, c'est le journal.
RFI Midi. Anne Contner.
Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour.
Et ce soutien affiché à une demande de longue date des pays africains.
Les États-Unis sont favorables à la création de 2 sièges permanents pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ce qu'a indiqué l'ambassadrice américaine aux Nations Unies à nos confrères de Reuters. Cela devrait être annoncé dans les prochaines heures devant le Bureau des Affaires étrangères à New York. Alors on le rappelle, actuellement, seuls 5 pays sont membres permanents. États-Unis, Royaume-Uni, Chine, Russie et France. Cela pourrait donc être un tournant pour l'institution, Romain Le Maresquier.
C'est une démarche qui pourrait bien relancer une organisation en perte de vitesse. Une réforme que soutient d'ailleurs le secrétaire général de l'ONU, qui rappelle que le Conseil de sécurité, tel qu'il fonctionne actuellement, correspond exactement à la situation post-Seconde Guerre mondiale. Dans des déclarations à l'agence Reuters, Antonio Guterres estime que ce Conseil de sécurité a un problème de légitimité, d'efficacité et qui doit donc être réformé. La proposition des États-Unis qui sera présentée ce jeudi à New York pourrait donc bien donner un nouvel élan à l'ONU, même si cette démarche, qui doit notamment permettre à l'Afrique d'obtenir 2 sièges permanents au Conseil de sécurité, vise entre autres à apaiser les relations de Washington avec certains pays africains mécontents du soutien américain à Israël. La proposition de créer un siège tournant au Conseil de sécurité pour les petits pays insulaires en développement a également un objectif pour les États-Unis, contrer l'influence grandissante de la Chine dans le Pacifique. Certes, la proposition qui sera présentée ce jeudi ne prévoit pas d'accorder un droit de veto à ses éventuels nouveaux membres, mais si elle est entérinée, cela marquerait l'une des premières grandes réformes du Conseil de sécurité depuis sa création en janvier 1946.
L'ONU, par ailleurs, endeuillée après la mort de 6 collaborateurs de l'UNRWA, l'agence pour les réfugiés palestiniens, hier, dans la bande de Gaza, tués dans une frappe israélienne qui a visé une école encore. Le bombardement a fait 18 morts au total. Israël affirme avoir ciblé des terroristes, mais Berlin condamne cette frappe qui a touché des humanitaires. Totalement inacceptable, a dit tout à l'heure le ministère des Affaires étrangères allemand. Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, lui, s'est dit scandalisé.
Après une courte trêve pour commémorer les attentats du 11 septembre aux États-Unis, Kamala Harris et Donald Trump repartent en campagne.
Oui, objectif surtout les États indécis. Ces 6 ou 7 États pivots en vue de la présidentielle de novembre. La candidate démocrate est aujourd'hui en Caroline du Nord, son rival républicain en Arizona. Et en tout cas, Donald Trump peut compter, ça ne change pas, sur le soutien des chrétiens blancs américains. C'est ce que souligne une étude du centre de recherche Pew. Depuis 2016, ce groupe constitue la base fidèle de l'électorat de Donald Trump, David Thompson.
Sans eux, Donald Trump ne pourrait remporter aucune élection. Les évangéliques blancs constituent sa base électorale tout aussi conservatrice que fidèle. En 2016 et 2020, ils ont voté pour Donald Trump à plus de 80%. Et selon la dernière étude du Pew Research Center, ils devraient voter Trump pour la 3e fois dans les mêmes proportions en novembre prochain. Selon cette étude réalisée fin août, 82% des évangéliques blancs soutiennent la candidature de Trump à la présidentielle. Il représente l'une des forces politiques les plus puissantes des États-Unis, un pays où 44% des adultes s'identifient comme chrétiens blancs, dont 14% d'évangéliques, 16 de protestants et 12 de catholiques qui soutiennent Trump aussi fortement à 61% avec 3 priorités, l'économie, l'immigration et l'avortement. Ces chiffres s'inversent totalement chez les chrétiens noirs américains. Selon le Pew Research Center, 86% des protestants afro-américains soutiennent la candidature démocrate de Kamala Harris, mais ils sont par définition beaucoup moins nombreux. David Thompson, Miami RFI.
Aux États-Unis, toujours dans le sud, en Louisiane, la tempête tropicale Francine, qui n'est plus classée dans la catégorie ouragan. Francine donc se déplace vers l'intérieur des terres avec des rafales de vent, de fortes pluies. De nombreuses localités ont été évacuées.
Au Brésil, en revanche, l'Amazonie manque d'eau.
La région dépend beaucoup de la navigation sur les fleuves. Mais problème, le niveau d'eau est trop bas. Ça a de multiples conséquences. Par exemple, des villages qui sont complètement isolés puisque les navires qui les ravitaillent d'habitude ne peuvent plus les atteindre. Alors face à cette sécheresse sévère, le président Lula a annoncé des travaux de dragage des fleuves, de la fourniture aussi de purificateurs d'eau. Ce sont des solutions d'urgence. Il va falloir en adopter d'autres de plus long terme, Lucille Gimbert.
Objectif numéro 1 pour lutter contre la sécheresse en Amazonie, freiner la déforestation. Car là où il n'y a plus d'arbres ni de végétation, les effets de la sécheresse sont encore plus intenses. D'autant qu'au Brésil, la forêt est détruite pour y mettre du bétail ou pour planter des monocultures très gourmandes en eau. Face aux sécheresses qui s'éternisent, le Brésil ne pourra plus longtemps esquiver une révision de ses pratiques agricoles intensives. Autre piste, restaurer la nature dans les différents bassins drainés par les eaux des rivières et des lacs. Dans l'état du Ceará, au nord-est du pays, cela a porté ses fruits. Eduardo Martins dirige la fondation du Ceará pour la météorologie et les ressources en eau.
Nous avons constaté dans ces zones où la nature a été restaurée une meilleure production de l'agriculture liée aux pluies. Certains secteurs ont été reforestés et le climat y est plus frais. Enfin, les paysans qui cultivent des haricots ou du maïs dans ces zones ont des rendements jusqu'à 2,5 fois supérieurs à ceux des paysans qui sont en dehors de la zone restaurée. C'est donc quelque chose sur lequel il faut travailler.
Enfin, le scientifique insiste, agence de l'eau, services climatiques, secteurs économiques concernés, les institutions liées à la gestion de l'eau doivent se coordonner, arrêter de travailler chacune de leur côté et adapter leurs réponses aux spécificités locales.
Comment faire face à la sécheresse en Amazonie? Les réponses détaillées à retrouver sur RFI.fr. 3 jours de deuil national décrétés au Pérou après l'annonce du décès d'Alberto Fujimori à 86 ans, l'ancien président au pouvoir entre 1990 et 2000. Il laisse une image très contrastée dans le pays qu'il a dirigé d'une main de fer. Adepte de l'ultralibéralisme, il avait dopé l'économie du Pérou et combattu les guérillas, mais avec des méthodes autoritaires. Condamné à 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité, Alberto Fujimori avait bénéficié d'une grâce ces derniers mois pour raison de santé. L'opposant vénézuélien Edmundo González, reçu aujourd'hui par le Premier ministre espagnol à Madrid. Une rencontre qualifiée de privée, candidat à la présidentielle de juillet. Ce scrutin officiellement remporté par le président sortant Nicolas Maduro. Edmundo González est visé par un mandat d'arrêt au Venezuela. L'Espagne, comme les autres pays européens, réclame la publication complète des procès-verbaux du scrutin.
Le chef de la diplomatie américaine en Pologne aujourd'hui, Anthony Blinken, a commencé une série d'entretiens sur un soutien commun à l'Ukraine face à la Russie.
À Kiev hier, il avait promis d'examiner rapidement la demande des autorités de pouvoir utiliser les missiles occidentaux de longue portée contre la Russie. Mais à ce stade, il n'y a pas d'engagement en ce sens. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé tout à l'heure la lenteur, je cite, des Occidentaux alors que la Russie a lancé une contre-offensive dans la région russe de Koursk. À Moscou, le ministère de la Défense affirme avoir repris le contrôle de 10 localités prises par l'armée ukrainienne depuis le début de son offensive dans la zone au mois d'août. Et puis c'est une première dans l'histoire, la première sortie spatiale privée réalisée par un équipage de civils, donc pas par des astronautes professionnels. À bord d'un vaisseau de SpaceX, 2 membres d'équipage se sont aventurés à l'extérieur de la capsule dans des combinaisons reliées au vaisseau pour l'oxygène. Nouvelle étape donc vers l'exploration commerciale de l'espace. Le patron de la NASA a félicité SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, pour ce pas de géant, je cite.
Merci Charlotte Hydrac. Nos auditeurs vous retrouvent dans 2 heures pour un prochain journal. Et nous parlons du continent américain durant les 20 prochaines minutes.
RFI Midi. Gonaïve, 90.5 FM.
La peur est palpable au sein de la communauté haïtienne de Springfield, dans l'État américain de l'Ohio. La presse rapporte même que certains n'osent plus envoyer leurs enfants à l'école. C'est une conséquence de la campagne de haine déclenchée par certains républicains, à commencer par Donald Trump et par son colistier pour la présidentielle. Il répète depuis plusieurs jours, et sans avancer la moindre preuve, des accusations totalement inventées selon lesquelles des migrants haïtiens enlèveraient les chats ou autres animaux de compagnie des Américains pour les manger. Et cela provoque l'indignation dans les rues de Port-au-Prince où notre correspondant Peterson Luxama a rencontré des citoyens mécontents et inquiets.
Cette campagne haineuse s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et suscite de l'indignation chez de nombreux habitants de Port-au-Prince, à l'image d'Apollon, étudiant à l'Université d'État d'Haïti.
Nous ne méritons pas cela parce que nous avons beaucoup de choses positives chez nous. Mais alors, comment se fait-il que tous les problèmes soulevés en République dominicaine et dans d'autres pays concernent toujours les Haïtiens? Pourquoi ne vantent-ils pas les aspects positifs que nous avons chez nous?
Pourquoi ça n'a pas montré aspect positif?
Même son de cloche du côté de Patrick, originaire de Saint-Marc, mais qui vit dans la capitale depuis 3 ans. L'étudiant en comptabilité dénonce des attaques contre les Haïtiens, un peuple résilient et qui croit dans le travail.
Quand nous recevons ces nouvelles, elles ne nous plaisent pas du tout. En tant qu'Haïtiens, quand nous entendons ce genre d'accusations, cela ne nous fera jamais plaisir.
Ce n'est pas Maxime qui dira le contraire. Cette campagne risque de ternir l'image des migrants haïtiens aux États-Unis. Le chauffeur de taxi appelle l'État haïtien à prendre ses responsabilités.
Il n'y a aucune preuve qui dit que les Haïtiens ont fait cela. Pour moi, je pense que c'est une mauvaise image pour nous. L'État haïtien doit assumer ses responsabilités dans ce cas.
De son côté, le gouvernement haïtien affiche sa solidarité avec ses concitoyens. La ministre des Affaires étrangères et des Haïtiens vivant à l'étranger, Dominique Dupuis, s'est ainsi entretenue par visioconférence le mardi 10 septembre avec une cinquantaine de leaders communautaires et religieux et des responsables d'organisations dans l'Ohio. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Voilà, cela fait des jours que ces accusations sont répétées par les plus hauts responsables républicains aux États-Unis. On entend bien l'amertume des Haïtiens. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Anne.
Vous êtes rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste et vous avez des informations sur cette rencontre dont nous parlait notre correspondant entre des leaders communautaires et la ministre.
Effectivement, la rencontre a eu lieu. C'était une rencontre par visioconférence. La ministre a essayé de rassurer les leaders de la communauté haïtienne de l'Ohio, mais surtout de leur manifester une solidarité et d'émettre aussi des réserves contre les attaques qui sont faites contre la communauté haïtienne en général. Il faut dire que cette communauté dans l'Ohio est une très jeune communauté. Elle n'est pas encore très organisée et les républicains ont décidé de frapper les Haïtiens qui sont faibles, mais parmi les plus faibles des communautés haïtiennes, celles qui viennent de s'installer à moins de 4 ans dans cette région des États-Unis. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger est avec eux, les Haïtiens sont avec eux en général et on doit s'attendre à ce qu'il y ait des prises de position d'autres organisations d'Haïtiens réparties sur tous les territoires américains.
Franz, vous avez pu échanger aussi avec la ministre des Finances qui vous a confirmé cette information. Haïti se libère d'un versement qui lui coûtait entre 9 et 10 millions de dollars chaque mois pour rembourser le pétrole acheté dans les années 2000 au Venezuela à des prix très préférentiels. Eh bien, ce qui restait de cette dette est annulé, Franz.
Effectivement, c'est grâce à une transaction qui a eu lieu en janvier dernier. Haïti, depuis des années, accumulait de l'argent dans un fonds bloqué quand on ne pouvait pas, à cause des sanctions financières américaines contre le Venezuela, transférer l'argent au Venezuela. L'argent s'accumulait, c'était près de 500 millions de dollars. Haïti a pu, en janvier dernier, verser ce montant au Venezuela. En contrepartie, le Venezuela a décidé d'annuler 1,7 milliard de dollars de dette qui restait sur la fameuse dette Petro-Caribe, dette qui a eu un sort tragique en Haïti, car beaucoup de scandales sont liés à cet argent. Mais au moins, le gouvernement haïtien a pu résoudre ce problème. Pour le moment, comme vous le disiez, 9 à 10 millions de dollars vont rester dans les caisses de l'État haïtien pour financer d'autres projets, pour passer à autre chose. Et Haïti avait sa principale dette extérieure était envers le Venezuela à travers le mécanisme Petro-Caribe.
Le Nouvelliste nous apprend également aujourd'hui qu'une nouvelle audition est prévue dans l'affaire qui a secoué le Conseil présidentiel de transition ces dernières semaines. Scandale de corruption. Les 3 membres du Conseil concernés sont convoqués pour une confrontation avec l'ancien administrateur de la Banque nationale de crédit qui les accuse.
C'est ce jeudi que c'est prévu, à 9h30 ce matin. On ne sait pas si la confrontation aura lieu. L'ancien président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit avait estimé à travers ses avocats que les conseillers présidentiels devaient d'abord démissionner pour que ce soit des civils à part égale qui se retrouvent devant l'instance de lutte contre la corruption. Parce que M. Pierre Lui, a été démis de ses fonctions de président de la banque. Et bien, il réclame également que les membres du conseil présidentiel soient au même niveau que lui. Pour le moment, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas si ce sont les avocats de M. Pierre-Louis qui vont se présenter ou bien s'il sera là lui-même parce qu'il n'était pas en Haïti ces derniers jours. On attend. C'est un nouveau rebondissement dans cette affaire qui empoisonne la vie du conseil présidentiel de transition. Il n'y a plus de majorité pour voter quasiment quoi que ce soit. Il n'y a pas de grandes décisions qui peuvent être prises. Et pour le moment, la gouvernance en Haïti est un peu handicapée par ce scandale.
Un mot encore, Franz, de la force multinationale qui appuie les policiers dans leur lutte contre les gangs. Des renforts arrivent aujourd'hui de Jamaïque.
Des renforts arrivent, mais ce n'est pas les renforts attendus. On parle d'une vingtaine de personnes qui doivent arriver ce jeudi à Port-au-Prince. On en attend des 250. On attend beaucoup des Jamaïcains qui doivent aider à faire des patrouilles maritimes dans la baie de Port-au-Prince pour essayer de sécuriser l'approvisionnement des ports qui sont dans cette baie. Pour le moment, on n'en est pas encore là, mais c'est un premier pas. C'est une avancée. Une vingtaine de militaires et de policiers vont débarquer. Ils viennent de la Jamaïque. C'est la première fois qu'un deuxième pays s'ajoute au Kenya pour aider à renforcer cette force multinationale qui n'arrive pas encore à atteindre les objectifs escomptés.
Voilà, 20 personnes qui viennent s'ajouter aux 400 policiers kényans qui sont déjà présents en Haïti. Merci Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. On peut vous lire sur lenouvelliste.com.
Le journal d'Haïti et des Amériques sur RFI.
3 jours de deuil national au Pérou après le décès de l'ancien président Alberto Fujimori. Ses années de pouvoir, de 1990 à 2000, avaient été brutales, marquées par des massacres qui lui avaient d'ailleurs valu une condamnation à 25 années de prison pour crimes contre l'humanité. Achim Lippold, l'ancien chef de l'État, aura tout de même droit à des funérailles nationales, mais de nombreux Péruviens ne verseront pas une larme pour lui.
Oui, sans doute, Alberto Fujimori avait divisé le pays par son style autoritaire, libéral et populiste. Mais ceux qui le souhaitent ont l'occasion de lui rendre un dernier hommage. À partir de ce jeudi, une veillée funèbre se tient au Musée national à Lima. La présidente Dina Boluarte sait que son prédécesseur, auquel elle est opposée politiquement, reste très populaire chez certains péruviens conservateurs nostalgiques de l'époque Fujimori. Elle n'a donc pas hésité à décréter 3 jours de deuil national avec les drapeaux en berne sur tous les bâtiments publics et l'ancien dirigeant, fils d'immigrés japonais décédé hier mercredi d'un cancer, aura droit aussi à des obsèques nationales avec tous les honneurs dignes d'un président en exercice. Ce sera samedi prochain.
Cette décision, Achim, ne fait pas l'unanimité au Pérou.
Oui, absolument. Même après sa mort, Alberto Fujimori continue à diviser les Péruviens. Faut-il ou non lui accorder ses honneurs funéraires, s'interroge le pays, d'après ce qu'on peut lire ce matin dans la presse, car Alberto Fujimori a passé 16 ans en prison pour corruption et crimes contre l'humanité, notamment pour son rôle dans 2 massacres commis contre des civils. C'était au début des années 1990, lorsque l'armée combattait la guérilla maoïste du Sentier Lumineux. Il était aussi accusé d'avoir ordonné la stérilisation forcée de plus de 1300 autochtones.
Alberto Fujimori avait été libéré en décembre dernier alors qu'il devait encore purger 9 ans de prison.
Oui, cette décision de la justice pour raisons humanitaires avait suscité de vives réactions, notamment de la part des familles de victimes de ces massacres. Pour les uns, c'était donc un dictateur, pour les autres, un dirigeant qui a combattu avec succès les guérillas. En tout cas, Alberto Fujimori était à l'origine d'un modèle autoritaire et populiste, un modèle qui a été recopié ensuite par d'autres gouvernements latino-américains de gauche ou de droite.
Et puis, il était aussi à l'origine d'un mouvement politique, le fujimorisme.
Oui, absolument. Le fujimorisme, ce cocktail populiste mélangé avec du conservatisme social et une bonne dose de néolibéralisme économique. Un courant très puissant qui a dominé la politique péruvienne pendant plus de 15 ans. Après la condamnation d'Alberto Fujimori, sa fille Keiko a repris le flambeau politique. Elle a réussi à faire du parti Fuerza Popular la première force au Parlement, mais des scandales de corruption et une rivalité interne avec son jeune frère Kenji ont plombé le mouvement. mouvement. Malgré trois tentatives, Keiko Fujimori n'a jamais réussi à se faire élire à la présidence. Aujourd'hui, Fuerza Popular reste toujours le principal parti de droite au Pérou, mais les ambitions présidentielles de sa dirigeante pour 2026 semblent être compromises. Keiko Fujimori est poursuivie pour blanchiment d'argent. Le parquet a requis 30 ans de prison à son encontre.
Voilà un héritage politique incertain pour cette figure controversée. Et si la presse péruvienne s'accorde, comme vous l'avez lu Vincent Souriau, c'est pour dire qu'Alberto Fujimori a polarisé le pays comme jamais auparavant.
C'est simple, écrit El Comercio, sans le fujimorisme et l'anti-fujimorisme, vous ne pouvez tout simplement pas comprendre l'histoire du Pérou au cours des 30 dernières années. En bien ou en mal, il a eu un tel impact, Fujimori, dans la vie politique péruvienne que, malgré lui, il a fini par définir les résultats des trois dernières élections présidentielles. On continuera sûrement à parler de Fujimori dans les années à venir, prédit le quotidien conservateur, de ses ombres et de ses lumières. Mais avec sa mort, un chapitre se ferme, un autre s'ouvre. Espérons que la polarisation qu'il a générée ne divisera plus les Péruviens. Beaucoup plus critique, Oro Publico, site péruvien, renommé pour ses enquêtes au long cours. On y lit dans une nécrologie très fouillée que si Fujimori a marqué le Pérou, c'est par son régime autoritaire, basé sur la soumission des institutions publiques et des forces armées. Et que s'il a fait de son nom une idéologie, c'est en refusant de quitter le pouvoir que pour rester au pouvoir, il a tordu les outils électoraux en s'efforçant de donner un vernis démocratique à ses réflexes répressifs. Dans La Repubblica, journal populaire de centre-gauche, l'historien José Ragas souligne qu'il a fini, Fujimori, par fuir le pays pour se soustraire à ses responsabilités, qu'il aurait pu reconnaître ce qu'il avait fait, mais qu'il a préféré rechercher l'impunité, éviter la prison et manipuler l'opinion publique.
Vincent, on vous retrouve dans quelques minutes après un détour par l'Argentine où il n'y aura pas de revalorisation des retraites. Le Parlement avait pourtant voté pour le mois dernier, mais le président a mis son veto et les députés d'opposition n'ont pas réussi hier à mobiliser suffisamment pour aller contre ce veto. Il leur aurait fallu le soutien des deux tiers des parlementaires. C'est raté, c'est donc la décision de Javier Milei qui s'impose, à la déception de dizaines de milliers de personnes qui manifestaient hier pour réclamer la levée du veto présidentiel. Théo Conscience était sur place.
11h du matin, alors que la séance plénière commence à la Chambre des députés, les manifestants sont déjà nombreux devant le Congrès barricadé par les forces de l'ordre.
Et Luis Alberto Landaris.
Luis Alberto Landaris a 64 ans.
Soy jubilado y sigo trabajando.
Il touche la retraite minimum et pour s'en sortir face à l'inflation galopante, plus 94% depuis le début de l'année, il continue de travailler en tant que commerçant.
Le vendredi 23, j'ai touché 277 000 pesos, environ 200 euros. Hier, j'ai payé 120 000 pesos pour un médicament. Comment voulez-vous que je m'en sorte ?
À l'intérieur du Parlement, les députés passent au vote vers 15h30 et l'opposition échoue à réunir la majorité des deux tiers nécessaires pour lever le veto présidentiel à la revalorisation des retraites. Javier Milei se félicite que l'équilibre budgétaire soit préservé et devant le Congrès, Julio, 69 ans, est écœuré.
Le président dit qu'il a été élu pour combattre la caste. C'est nous la caste ? Je pense que s'il avait dit que la caste, c'était les retraités, il n'aurait pas été élu.
Après le vote, des incidents éclatent devant le Parlement. Des manifestants font tomber des barrières anti-émeutes et la police répond avec du gaz lacrymogène et des munitions en caoutchouc. Bilan provisoire, 9 blessés et une arrestation. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
À Buenos Aires, il est 10h23.
RFI Midi.
On vous retrouve Vincent Souriau. Dans la presse du continent, on parle encore de la gueule de bois pour Donald Trump au lendemain de son débat en demi-teinte face à Kamala Harris.
Oui, ça secoue un peu, hein, ça secoue chez les Républicains, nous raconte The Hill, l'état-major du parti mécontent des conseillers de l'ancien président qui l'auraient mal préparé. Petit tacle de Chris Christie, l'ancien gouverneur du New Jersey. Personne ne l'a remis à sa place, Donald Trump, pendant les séances de préparation. Il a fait exactement ce qu'il voulait. Il y est allé à l'instinct, il y est allé aux tripes et chez lui, ça prend la forme d'un candidat aigri et colérique. L'équipe Trump avait une stratégie, mettre Kamala Harris dans le même sac que Joe Biden et ses mesures les plus impopulaires, faire passer Kamala Harris pour une progressiste déconnectée de la réalité. Eh bien, il a raté le coche. Le New York Times raconte pourtant que son équipe avait préparé des ripostes et une manière de retourner ses propres flèches contre la vice-présidente, mais non. Il s'est emporté, il a cédé à la provocation. Dans l'ensemble, oui, Donald Trump a manqué son débat, mais quel impact impact. Certains de ses proches, poursuit le New York Times, s'attendent à un léger rebond de Kamala Harris dans les sondages. Les autres déplorent une occasion manquée alors que l'effet waouh de son entrée en campagne commençait tout juste à se tasser.
La revue de presse est signée Vincent Souriau.
RFI Midi.
Jusqu'à 50 prisons et des amendes au Nicaragua pour ceux qui publieraient sur les réseaux sociaux des commentaires provoquant l'inquiétude, la peur, la panique ou l'anxiété. C'est ce que prévoit la nouvelle loi approuvée par l'Assemblée nationale, une loi qualifiée de loi Bayon par les médias d'opposition en exil. Réaction d'Alvaro Leiva, le président de l'Association centra-américaine pour la promotion et la défense des droits de l'homme.
La dictature d'Ortega à travers ses instruments, dont le pouvoir législatif, c'est tout à fait dans l'air du temps, n'est-ce pas? Nous avons toujours et en permanence signalé et dit que la situation, la crise sociopolitique, humanitaire et religieuse qui existe au Nicaragua est permanente et ascendante. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une violation constante des droits de l'homme, puisqu'au Nicaragua, les droits de l'homme sont déjà une utopie. Que ce soit la liberté des droits civils, politiques et constitutionnels. C'est un pouvoir absolu qui est entre les mains de ces deux criminels que sont Daniel Ortega et Rosario Murillo, qui ont fait s'effondrer la paix sociale.
Le président de l'Association centra-américaine pour la promotion et la défense des droits de l'homme, interrogé par la rédaction en espagnol de RFI.
RFI à Cayenne, 98.7 FM.
Benoît Ferrand, aujourd'hui pour l'actualité des Outre-mer. Benoît, en Guadeloupe, les relations se crispent entre l'État français et le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement.
Eh oui, l'État, autrement dit le préfet, a annoncé en début de semaine suspendre le versement de ses subventions de fonctionnement au SMGEAG, le SMEAG, comme on dit là-bas, en cause une gestion, paraît-il, assez erratique. Écoutez le préfet de la Guadeloupe, Xavier Lefort, au micro d'Éric Stimpfling.
L'État, depuis maintenant 2 ans, investit plusieurs millions d'euros, 24 millions en fonctionnement l'année dernière. Il s'apprête effectivement à investir 20 millions d'euros cette année. Il finance 80 millions des investissements du syndicat. Il apporte de l'assistance technique. Ça n'aurait aucun sens que du jour au lendemain, l'État arrête d'aider et d'appuyer le syndicat. C'est un coup de semonce en disant « mettez de l'ordre chez vous » et moi j'attends de voir ce qui se passe. Aujourd'hui, quand j'ai une comptabilité qui montre un tel désordre, je ne suis pas très rassuré et je ne peux pas effectivement comme ça, en toute confiance, vous verser. Alors, ce n'est pas les 12 millions, parce que ça se verse en plusieurs tranches. La tranche du mois de septembre, elle était de l'ordre de 5 millions d'euros, voilà, qui devait être versée au syndicat. Avant de la verser, moi, j'attends de voir. J'attends des garanties un peu plus sérieuses de remise en état de la comptabilité. Je suis plutôt confiant sur la façon, effectivement, dont le syndicat a perçu le message et est en train, effectivement, de remettre les choses d'équerre. J'ai d'autant moins de doutes que, évidemment, là aussi, nous sommes responsables. On est, depuis le début, dans une logique d'appui, d'accompagnement, d'aide au SMGEAG. Ces écritures de régularisation, on est dans l'ordre, effectivement, d'une remise en état de la comptabilité, soient faites le plus vite possible.
En Martinique, maintenant, avec un tout autre sujet, la rentrée hier de l'enseignement agricole. Cette année, le lycée spécialisé du Robert a vu ses effectifs augmenter de 10%. Signe, selon son directeur, que les métiers de l'agriculture peuvent encore se montrer attractifs. Vincent Ripoche est au micro de Pierre-Yves Honoré.
Je pense que c'est d'abord lié à nos domaines de formation, l'aménagement paysager notamment. C'est toute la partie conception, création, entretien des espaces verts. Et c'est aussi tout ce qui concerne le travail dans la nature finalement. Donc je pense qu'il y a des jeunes qui sont des jeunes qui ne sont pas forcément très très intéressés par des études très longues, mais qui aiment bouger, qui aiment travailler en extérieur, qui aiment avoir finalement acquérir des compétences pour travailler et pouvoir travailler à l'extérieur. Donc ça c'est une possibilité. Voilà. Après, un autre domaine de formation, c'est l'agroalimentaire, la transformation alimentaire, les cosmétiques. Donc là aussi, ce sont des métiers qui existent en Martinique, avec un secteur de production qui est vraiment bien développé, de nombreuses entreprises. Donc besoin d'avoir des personnels formés. Et j'irais à notre niveau, en termes de communication dans les collèges et auprès des familles, on présente aussi ces métiers, la perspective de l'emploi. Et je pense que ça contribue à motiver quelques jeunes, qui fait que notre effectif a un petit peu augmenté cette rentrée, effectivement.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Merci à tous d'avoir été avec nous pour RFI Midi, réalisé aujourd'hui par Yann Eligouin. Je vous souhaite une très bonne journée sur RFI. Je vous retrouve demain, 11h, temps universel. Vous ne bougez pas dans quelques secondes maintenant. De vive voix en Amérique latine, au Venezuela, Pascal Paradou reçoit l'auteur Miguel Bonnefoy pour parler de son cinquième roman. Il s'appelle « Le rêve du jaguar ».
Session Lab avec Hortense Vol.
Son style mêle les codes du flamenco au rap et aux musiques latines. Ses textes sont poétiques et revendicatifs et sa voix est juste surpuissante. L'artiste espagnol Keral Klaus est dans Session Lab.
Retrouvez Session Lab avec Hortense Vol ce dimanche à 14h10 TU sur RFI et dès maintenant en podcast en audio 3D sur toutes les plateformes.